Bouchard en parle est présenté par Matelas Dauphin qui fête son 49e anniversaire. Des économies sur tous les matelas, plus payés en 36 versements où il paye les deux taxes pour un temps limité dans tous les matelas Dauphin.
7h37, un moment spécial ce matin dans Bouchard en parle. Vous allez en savoir un peu plus sur nous. On va se dévoiler ce matin, toute l'équipe, comme jamais, dans un souci de transparence totale. Vous allez, vous connaissez nos noms, connaissez un peu nos histoires, d'où on vient, hein? D'où on vient un petit peu.
Oui.
Mais là, on va aller beaucoup plus en profondeur que ça. Nous avons fait, je trouve ça vraiment le fun comme exercice, et je vais d'abord vous dire pourquoi on le fait. Nous avons, tous les membres de l'équipe de Bouchard en parle, fait un test d'ADN pour connaître nos origines ethniques. Ah là, j'en entends déjà dire, oh, donc ben plat. On sait que Jean-Simon est originaire en partie...
Pourquoi tu me vises, moi?
Non, mais en partie du Vietnam, parce que tu as des origines asiatiques. Donc, il y a ça, mais tout le monde le sait. Le reste, hey, Crête, Caron, Vézina, Bouchard, puis Vézina. Vez.
Je suis unique.
Fait que ça va être assez plate, là. À part Jean-Simon, qui, bon, OK, il y a des origines d'un autre continent. Le reste, ça va être français, 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 français. Et si les apparences étaient trompeuses? On se fie à quoi pour ça, hein? Je veux commencer avec ça. Parce que vous allez voir que c'est pas plate, pas tout. Vous allez nous suivre là-dedans. Moi, je tombe en bas de ma chaise. Alors, on va commencer un peu par moi, là. Mon père est un Bouchard, vous le savez. Ma mère est une Tremblay. Si je remonte un peu les grands-parents, là, c'est Martel puis Larouche. Fait que mes quatre grands-parents, là, c'est Tremblay, Martel, Bouchard, Larouche. OK? D'Héberville puis Saint-Henri-de-Taillon. Puis si on regarde les autres grands-parents, l'abbé. Fait que tu sais, moi, le test d'ADN, quand on me proposait ça, j'ai dit, gars, ça va être beau. On va le faire, tu sais. Les gens autour de moi, ça va être le fun, on va dévoiler nos origines ethniques. Ben oui, toi, regarde, 100% français. Merci beaucoup, bonsoir. Non, en plus, j'ai mon arbre généalogique pas mal complet. Merci à un auditeur qui me l'a fait, fait que je connais un peu mes ancêtres. Ça vient tout du nord de la France, les Bouchards, les Tremblay, c'est là, fait que regarde. Puis, alors, j'y voyais pas d'intérêt.
Ben ouais. Ah, en plus, tu as été le dernier à recevoir tes résultats.
T'as
été le dernier, puis t'étais là, bon, en tout cas, moi, ça va être plate, là, ça va être ça. Là. Hey, je me souviens, vraiment.
Alors, on fait ça pour dire qu'on se fie à quoi? Hein? Si je vous pose la question à vous, à la maison, dans votre char. Connaissez-vous vos origines? Ben oui, regardez-moi. Moi, je suis comme mon arrière-arrière-grand-père. Je peux te dire que, regarde, c'est origine française, mur à mur. Ça, c'est combien d'années, ça? Vous me parlez de quoi, là? Bon, mes ancêtres sont arrivés quelque part en 1600, 1700, OK, on parle de combien? Bon, 300-400 ans. Puis avant, bon, ben, je connais lui qui était en France, j'ai au moins son nom, OK? Il était allé en France depuis combien de temps, lui? Oh, là, ça se perd un peu, mais là, rendu là, non. C'est là que ça devient important. 400 ans, là, sur l'histoire de l'ADN, là, de notre origine ethnique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est rien. C'est un grain de sable. On se fie sur nos noms de famille, nos ancêtres ici. Ça n'a rien à voir. Des migrations, là, il y en a eu tellement en Europe, en Asie. Les populations se sont mélangées. Tout ça que on se fie sur quoi? Soyons honnêtes. Nos noms, l'apparence, la couleur de la peau.
Oui.
Une coupe de signes, ça peut être les yeux. Ça peut être...
Exact.
Ben oui.
Couleur de la peau, oui.
Ben oui.
Mon c'est, gros nez.
C'est, on se fie là-dessus. C'est une erreur. On ne doit pas se fier à nos yeux. Alors, on est allé plus loin et on va vous dévoiler ça. Est-ce qu'il y a un but autre que... Il y en a peut-être qui vont dire, hey, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout de vos origines. Mettons, Butch, que tu nous apprends, ou Elisabeth, ou Vess. Moi, je pense que au moment où on veut, tout le monde ensemble, la très grande majorité, combattre le racisme, moi, je pense que c'est important de le rappeler et de le prouver que, scientifiquement parlant, c'est un mensonge. Il y a pas de base scientifique
non.
À ça. Là. Le concept de la race, la pureté du sang, le « moi, je suis de telle race », vous allez le voir, là, parce que vous allez pogner de quoi avec nous autres. On va vous le dévoiler. D'ailleurs, petit détour par l'histoire, vous savez comment j'aime ça. Parmi les plus racistes au monde, il y a les nazis. Vous n'avez pas idée à quel point, quand ils ont voté les lois de Nuremberg sur les juifs, leur grande difficulté, ça a été de définir un juif. Ils n'ont pas été capables. Ils ont dû mentir. Ils ont essayé de mesurer les crânes, le nez, toutes sortes d'affaires. C'est quoi un juif? Ils le trouvaient pas. Parce qu'il y en a pas. T'sais, ils ont essayé, là, avec le sang, avec toutes sortes d'affaires, de dire, OK, on va... Parce qu'ils croyaient à ça, eux autres, dur comme fer, que ça existe, la race juive. Mais non. Ils ont jamais été capables. Ils se sont basés, c'est triste à dire, mais je vous l'ai déjà dit, se sont basés sur les lois raciales américaines. Les nazis se sont inspirés de la ségrégation aux États-Unis envers les Noirs. Même ils sont pas allés aussi loin. Ils ont, parce que les Américains, c'était quand t'as un seul de tes quatre descendants de couleur noire, pour eux autres, t'étais noir. OK? Un seul des quatre. Les Allemands sont pas allés aussi loin, mais ils se sont fiés donc uniquement aux apparences, aux noms, à l'arbre généalogique. Ils ont jamais été capables, et Dieu sait qu'ils ont essayé, les nazis, avec plein de savants, là, de définir la race juive, ils ont pas été capables. Méfiez-vous de votre jugement de vos yeux. Je pense que les gens devraient faire ça. Ça peut vous donner l'idée, là? Faites ça. Si vous connaissez des racistes autour de vous, là, « Ah, oh, moi, là, tel peuple, telle ethnie. » Ah ouais? Qui te dit que t'as pas ça, t'as pas des liens. Alors, on y va? On commence avec qui? On va commencer avec... On va commencer à droite, tiens. Pourquoi pas vert?
Et pourquoi pas?
Hein? Alors, Pierre Vézina?
Ouais.
Ton autre nom, c'est quoi, mettons, là?
Pichette. Non, ben, le nom famille de ma mère, c'est une Pichette.
OK. Est-ce que, selon toi, est-ce que t'as déjà eu connaissance que dans ta famille, il y avait des gens d'origine différente?
À ma connaissance, on arrive tous de la France. Le premier Vézina au Québec, c'est un Jacques Vézina qui était tonnelier, qui venait de, me semble, c'était La Rochelle.
OK, c'est ce que tu sais de tes origines.
T'as assez français.
Donc, toi, c'est comme français.
Pas mal.
OK, on a fait le test d'ADN et les résultats sont...
Ben, ce que j'ai de plus dans le sang, c'est du sang italien.
Ton numéro 1, c'est Italie.
Ouais.
Ça veut dire qu'en quelque part, tes ancêtres français provenaient d'Italie, puis ils ont dû migrer en France, ils ont habité longtemps, mais comme tel, ton origine ethnique, c'est l'Italie.
Je sais qu'il existe des Vezzini en Italie.
Hein? Des Vezzini?
Probablement. Alors, que ça vient de là.
Tu viens de changer de surnom, ce n'est plus Vez, c'est Vezzini.
Pietro Vezzini.
En deuxième, c'est nord-ouest de l'Europe, là, entre autres la France en particulier.
OK. Ce qui n'est pas étonnant.
Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris.
Et ensuite, comprenez qu'on va faire le top 3. Là. On ne vous donnera pas toutes les origines parce qu'il y a parfois des faibles pourcentages. Là. Bon, on va se concentrer sur l'essentiel.
Et en troisième place, c'est Angleterre.
Hein? Ah ouais?
Ouais.
Mais c'est pas étonnant. Le nord de la France,
c'est pas loin.
Et l'Angleterre, les Normands, tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de mélange dans ce coin-là.
Ouais. Effectivement. Alors, retrouve mon arbre généalogique que j'ai chez nous quelque part.
Alors, Vince, c'est quoi le plus beau sport, selon toi? Là,
Là j'ai plus le choix.
Non!
C'est le soccer.
Bon, merci! voyez à quoi ça sert. Hey, là, OK,
je viens de changer. Là, OK, c'est tellement loin derrière.
On la voit pas, la POC, on voit rien. Voyons donc, hey, le soccer, le sport le plus pratiqué au monde.
Oui.
Fait que là, toi, c'est l'Impact maintenant, là.
Peut-être plus la Juventus.
Oh, OK, t'es à ce point-là.
Ben, là, peut-être plus.
Même le soccer nord-américain, ça t'intéresse pas, là.
Oh.
Ronaldo, grosse saison avec la Juventus.
Grosse saison.
Alors, voyez-vous le champ. Alors, Vez est italien. Elisabeth, je te vois, t'as out.
J'ai out, certainement.
Qu'est-ce que tu sais de tes origines, d'abord, avant de donner les résultats?
Bon, ben, France.
À matin.
C'était la France.
Crête, du côté de ta mère, c'est une?
Leblanc.
Crête, Leblanc.
Elle peut pas.
Et dans ton arbre généalogique, t'as jamais entendu parler qu'il y avait autre chose que français?
Ben, disons que quand j'ai donné mes résultats à mes parents, ils croyaient pas. Là, nous autres, c'est la France, c'est la France.
Ils cherchaient le laitier.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors, hey, j'ai 7 pays différents, moi, en passant. Là. Évidemment, on va y aller en ordre de priorité, là, mais je viens quand même de 7 pays différents. Le numéro 1, au plus grand pourcentage, c'est l'Irlande.
Voyons!
Ça, c'est une surprise, parce que j'aime pas la bière tant que ça.
T'es irlandaise?
Oui, irlandaise. Ensuite, je viens aussi de l'Angleterre. Et la surprise, la Finlande.
Hein? Voyons, numéro 3.
Oui, incroyable, hein?
Non, mais D'abord, ça c'était une toune finlandaise.
C'est l'hymne national finlandais, j'ai pas compris grand-chose.
Mais t'as peu, il y a une logique, là. Irlande, Angleterre, Finlande, c'est dans le même bassin.
Oui, effectivement.
C'est dans le même coin où il y a eu énormément de migration. Tout ça. Mais t'as peu, là, la France est où dans ton affaire?
Elle n'est pas là. Ben, en fait, il y a la Sardaigne qui a déjà appartenu à la France, si je ne me trompe pas. Mais maintenant, je pense que ça appartient à l'Italie.
Oui, c'est un groupe ethnique différent, la Sardaigne. Ouais. C'est ce qui explique sur le truc d'ADN que c'est des racines très, très anciennes et différentes de l'Italie.
Ben, j'ai un faible pourcentage quand même de la Sardaigne, mais là, c'est italien, c'est français. Là,
Irlandais?
Ben, depuis que je sais ça, je vais t'avouer que je me sens un petit peu. Écoute, le sport, te demander à Vest.
Non, mais vous devez savoir qu'elle parle anglais, là, en dehors des autres. Il n'y a plus moyen de communiquer avec elle en français.
J'ai plus rien savoir de parler en français.
Mais c'est la Saint-Patrick tout le temps.
T'as demandé à Vest, c'était quoi le plus beau sport? Mais moi, je vais te dire, c'est quoi le plus beau sport? C'est le hurling.
Que c'est ça?
C'est le sport national irlandais. C'est une genre de crosse, mais pas crosse, là.
Ça ressemble un petit peu au hockey sur gazon, mais avec une crosse un peu différente.
Oui. Alors, je suis ça maintenant. Faut le dire d'ailleurs. Je sais pas pourquoi Vest en parle pas dans ses manchettes de sport. Je trouve ça un petit peu injuste pour les Irlandais.
C'est vraiment que ton habit vert, et c'est beau, t'es habillé comme en farfadet.
Merci, oui, c'est ça.
Je trouve ça vraiment la mode.
T'as teint tes cheveux, t'es rendu rousse. Oui, effectivement. Aussi.
Mais est-ce que t'aurais pensé ça?
Non, jamais. Non, jamais. Hein? Mais je suis contente, on dirait. Je suis comme fière de mes origines, finalement. Je trouve ça le fun,
l'Irlandaise. Et t'as dit ça à tes parents? Comment ils ont réagi?
Ah, ben, ils comprenaient pas, là.
Ils ont un peu dans l'âme, voir s'il y avait des Irlandais à quelque part. Ou,
Ben, non, mais eux autres, ils niaisaient, étaient là. Il n'y a personne de Saint-Enédine, de Saint-Séverin, parce que eux autres, c'est là que, quand t'es arrivé ici, c'était là. C'est ces villages-là, vraiment,
mais
qui étaient
dominants.
C'est bien avant ça.
Je suis convaincu que tes descendants ici au Québec sont probablement tous français.
Oui, mais avant d'arriver là.
Avant.
Exact.
Et on sait qu'on vient de petits villages en France, là, puis il y a un ancêtre qui est parti de là, mais on ne sait pas pendant 1000 ans ou 2000 ans avant. Il était où?
C'est ça.
Ben, dans ton cas, c'est l'Irlande.
Ah oui, puis tu sais, c'est les petits pourcentages aussi qui sont intéressants. Europe de l'Est, le genre Ukraine, là, et tellement, donc, c'est que ça vient, ça n'a pas de sens. Là. Ah, on a aussi ça.
T'as aussi ça?
C'est un petit pourcentage, oui. La dominance, c'est vraiment l'Irlande, là, à peu près 50 %.
Est-ce que tu vas aller voyager en Irlande? Est-ce que tu veux retrouver tes ancêtres?
Je veux y aller. Je veux voir mes racines et voir mes ancêtres. Et sérieusement, ça donne envie d'y aller. Quand tu fais ce test-là, tu découvres une appartenance que tu n'avais pas avant.
Mais vous rendez-vous compte que. Vous savez qu'avec les Irlandais, là, prenons ça. Parce que oui, c'est un but, ce qu'on fait là, c'est un peu combattre le racisme, on vous le dit, puis de montrer que, regarde, on sait pas, faut pas se fier aux apparences. Tu sais qu'à Québec, il y en a eu des guerres, là. Puis dans les rues de Montréal, puis de Québec, entre les anglophones puis les francophones, là, ça brossait, là. Fait que t'avais peut-être dans un camp, là, t'as peut-être dans, mettons, là, dans tes ancêtres, t'as peut-être des gens qui ont fait des petites bagarres de rue avec des Irlandais à l'époque où ça brossait, là, alors qu'ils étaient Irlandais. En réalité, à l'intérieur, au niveau de l'ethnie, évidemment, il était de culture française. Parce que là, on parle pas de la culture. Notre culture française, elle demeure. Mais au niveau du racisme, ceux qui pensent que vraiment, là, à l'intérieur, il y a des races, tout ça, tu étais irlandaise. Oui. Comme probablement plein de gens au Québec. Tu dois pas être tout seul.
Ben non, là. C'est sûr que non. Là.
Si
on n'est pas arrivé
avec
seul,
ça, là, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Oui. On est rendu à Jean-Simon.
Oui, ben là, évidemment, vous allez comprendre que...
Jean-Simon, c'était notre test.
Oui.
De validité.
Exact.
Parce que t'es le seul dans la gang qui a vraiment des origines clairement...
De deux continents.
En Asie, de deux continents.
Oui.
Parce que je sais qu'il y en a qui remettent en question un peu ces tests.
Oui.
Or, là-dessus, on donnera pas toutes les punches, là, mais t'es vraiment moitié Asie, moitié Europe.
Absolument. Absolument. Et bon, j'étais un moyen melting pot, ce qui est pas surprenant. Il y en a 10. Je vais vous nommer les 5 principaux. OK? Les 5 principaux. Puis vous allez voir, il y a des affaires surprenantes. Bon, d'abord, première, pas de surprise, mon père est vietnamien, fait que vietnamien.
Mais encore là... On voit qu'il y a des mélanges. Parce que t'es pas 50 % vietnamien. T'as un peu de chinois, t'as du...
J'ai du thaï et j'ai du philippin aussi. Oui,
ouais.
Ils sont là. Alors,
fait qu'on voit que dans ces régions-là aussi, il y a eu un brassage, ça s'est mélangé, les migrations.
Et mon père m'a dit c'était normal. J'en ai parlé, il m'a dit effectivement, les Vietnamiens, quand ils sont descendus vers le sud, parce qu'ils viennent de la Chine à la base, ils ont chassé des populations qui sont devenues les Cambodgiens, les Thaïs, les Philippins, les Malaisiens. Donc, c'est logique. En deuxième position, ben, avec un très fort pourcentage, ben, c'est le bord à ma mère, la France.
Et là, est-ce que... Non, on va attendre à la fin avant de vendre ce punch-là. Mais effectivement, donc, t'es origine asiatique et deuxième origine, la France. Et ça, c'est dû à ta mère, les Boali, c'est ça?
Troisième, okay. Quand même pas loin de 10 %. Italien.
T'as un peu d'italien aussi, toi?
L'Italie est assez prédominante dans nos résultats. Moi, j'en ai aussi.
Ben... il faut penser, tu sais, l'Europe, là, quand on voit une carte, là, on insiste beaucoup sur les pays, la Suisse, l'Italie, la France. Quand on regarde ça, là, C'est pas si gros que ça. Mm-hmm. Puis ça s'est mélangé énormément. Les guerres, là, ont parfois fait en sorte que des centaines de milliers, des millions de personnes se retrouvent ailleurs, mm-hmm. parce que t'as parlé tantôt des Vietnamiens qui ont chassé des populations.
Exact.
Ça a été comme ça au fil des années, les gens se sont mélangés. L'autre affaire, qui est pas tabou, il faut en parler, c'est historique. C'est triste, mais c'est un fait que les guerres entraînaient beaucoup de viols. Les peuples conquérants, lorsqu'ils envahissaient un pays, violaient les femmes du pays conquis. C'était comme ça.
Ah oui, les Français ont fait beaucoup d'enfants en Russie avec Napoléon.
Mmh. Oui, alors c'est...
Et là, ça devient weird.
C'est triste, mais c'est ça. Il y a eu les migrations, les gens qui changent de pays. Il y a eu les viols dus à la guerre. Il y a eu toutes sortes de phénomènes.
Les autres deviennent weird. Baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie.
Oui, mais là, c'est des faibles pourcentages.
C'est ça.
Un peu,
mais le dernier, quand même, 5 %, puis je viendrai de 3 continents, donc le Maghreb.
Tu maghrèbes un peu?
Oui, j'ai 5% de sang maghrébin. D'où ça vient? Fouille-moi.
Pascal Caron-Vézina. Mais là, on le sait dans ton nom tout de suite. Caron-Vézina, ça va être français également beaucoup.
0000.
Ben, un petit Vedini, là, quand même.
Ben oui, puis je savais que ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, c'est Cassista. Ça venait de l'Italie. Fait que je me suis dit, il y a sûrement une corrélation qui va se popper dans mon test d'ADN. Zéro pin bar. Elisabeth, écoute, je pense que nos ancêtres ont fui la grande famine en Irlande dans les années 1847, parce que c'est comme ça que les Irlandais sont arrivés au Québec. Je pense qu'on a quand même beaucoup de ressemblances, parce que c'est ce qui est en majorité.
Aussi. Une autre!
Nous avons les mêmes parents. Je pense pas que c'est irlandais, ça.
Dropkick Murphy, c'est un groupe de Boston, mais qui fait de l'Irlande.
Alors, on pratique le hurling maintenant. Donc,
Là, vous prenez toutes les deux pour les Bruins, c'est ça? Là,
parce on boit que
Boston,
de la Guinness.
Boston, l'Irlande, buvez de la Guinness, Astion Saint-Patrick.
On a changé du tout.
Vous avez changé de vie.
Oui, depuis vendredi.
Ben non, en passant, non. C'est justement ça aussi. Non, tu changes pas. T'es la même personne, là. C'est la même affaire. Mais t'as découvert que toi aussi, t'es irlandaise.
Oui, puis c'est super intéressant parce que, comme je disais, on a fui la grande famine, là, les Irlandais, quand ils sont arrivés ici au Québec. Puis ça a été une partie intégrante de la Révolution industrielle canadienne.
C'est peut-être pas ici que ça s'est fait.
Non, c'est peut-être avant.
Peut-être que le mix qui fait en sorte que t'es irlandaise, ça s'est fait en France quand les Irlandais sont arrivés là-bas.
Années.
On sait pas, là.
Mais il y en a quand même beaucoup, puis ils ont servi beaucoup pour les chemins de fer ici. Deuxième, je me dis, on va tomber tout de suite à l'Italie. Mais non, on s'en va en Espagne.
Hein?
C'est ce que j'ai le plus dans le sang après dans l'Irlande. L'ADN, après l'Irlande. Ouais. Okay. Puis après ça, ben là, c'est sûr que je rejoins mon beau Vez, les Italiens.
Mais là, c'est Vézina.
Ben oui.
Vedini.
Non, mais ça démontre une autre preuve de validité. Non seulement avec Jean-Simon, on avait déjà un bon test, mais toi qui es aussi Vézina, dans les deux cas.
Ouais.
Fait que les Vézina, là, vous avez du sang italien.
Oui, puis c'est drôle parce que c'est sûr que tu reçois tes tests, tu vas aller chercher un petit peu plus loin. Puis les Italiens, ben, ils sont arrivés aussi au Québec. Une grande partie d'Italiens qui sont arrivés ici. Des 1900, ils ont travaillé sur les chemins de fer. Puis pourquoi ils sont arrivés ici? Les salaires étaient 5 fois plus élevés qu'en Italie, au Québec. Puis ils ont encore travaillé une fois sur les chemins de fer. Puis il y avait des recruteurs qui amenaient des Italiens au Québec. Puis à chaque fois qu'ils les faisaient passer pour venir travailler ici, c'était des bons travailleurs. Ils se gardaient une petite cote dans leur poche. Fait que Vez, on est peut-être un petit peu plus wise que d'autres, mais un petit peu crosseur aussi, si je peux mettre ce terme.
Mais compte tenu que c'est, mettons, l'Irlande, là, compte tenu de ton pourcentage, le mix, c'est pas fait au Québec. Sinon, t'aurais juste une petite
partie. Ben non, c'est ça.
Ça veut dire que ça s'est fait avant.
Oui, c'est à 60 %.
On ne le sait pas. Donc, on ne sait pas nos origines ethniques. On les connaît pas. On pense les savoir avec les noms, nos descendants directs, avec la couleur ou les signes un peu. Tu sais, les faces un peu. Il y a des gens, ça peut être plus foncé. La pigmentation de la peau, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il reste moi. Moi, j'ai pogné de quoi aussi. Parce que, écoute bien, là. 100 % bleuet, là. Hein? Bouchard, Tremblay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec toutes les histoires qui circulent, que là-bas, on sait bien, Saguenay-Lac-Saint-Jean, population, génétiquement, ça s'est pas beaucoup mélangé.
La cousine avec le cousin, mettons.
Ouais, vous connaissez toutes les vieilles histoires. Là. Quand il y a un divorce au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, mettons un gars divorce de sa femme, c'est encore sa sœur?
C'est très bon.
Non, parce que c'est
un dilemme juridique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est tellement niaiseux. Évidemment, puis je sais, moi, j'ai fait mon arbre généalogique jusqu'en France. Alors, je m'attendais vraiment à un fort pourcentage de Français. Et avant de vous dévoiler mes origines, je vais d'abord tout de suite dire ça pour vous vendre un autre punch, dans le fond. Alors, je suis zéro Français aussi. Hein? Honnêtement, ça m'a fait de quoi? Zéro. Et un Bouchard Tremblay du Lac-Saint-Jean, zéro. J'ai rien en France. Ce qui veut donc dire qu'à la question suivante, lequel est le plus Français de Bouchard en parle? Est-ce que c'est Vézina, Crête, Bouchard, Caron Vézina, ou là, on va l'appeler par son vrai nom, on dit Bui, mais honnêtement, on devrait dire Bouy.
Oui.
Parce que c'est
en vietnamien, ça prononce Bouy.
Alors, Bouy. Eh bien, c'est Jean-Simon. Regardez-y la face, là. Non, sans blague, vrai, vous comprenez? Regardez-y la face. Non, mais t'as des traits asiatiques.
Ben oui, ben c'est indéniable.
Mal, c'est indéniable. Croyez-le ou non, c'est le plus français de la guerre. Alors, lui, qui a déjà été victime de racisme, lui, vous comprenez pourquoi je vais le dire, là, lui qui, à Cap-Rouge, se faisait traiter de Shintok, c'est le plus français de la gang de Bouchard en part. Qui aurait cru ça? D'ailleurs, vous allez voir, on va poster des trucs sur Facebook. Là. C'est déjà fait. Mm-hmm. Et on joue sur les apparences. Vous allez voir une photo de Vez habillé en joueur des Nordiques. Puis finalement, la photo d'après, c'est un joueur de soccer italien. Vous allez voir les filles également en train de trinquer avec des...
Bon, la bière.
Je
ne
vais pas vous vendre les punch. Mais il y a un petit punch avec Jean-Simon, dont vous connaissez maintenant un peu le résultat, où on s'est demandé lequel est le plus français de la gang. Alors, si je ne suis pas français pour ce qui est de moi, je suis quoi? Ben, je suis espagnol.
Oh, mon Dieu!
Parce que c'est un Espagnol qui chante Mira Sofia.
Bon. OK, c'est ça, parce que la toune est italienne.
Non, la toune est espagnole, mais en poignée en Italie. Je l'ai mis pour toi.
J'aurais aimé ça de l'avoir, moi, cette chanson-là.
Ah, mais t'es pas espagnol, désolé.
Hey, Vince, le meilleur joueur, c'est Nadal. Hey, Federer, c'est de la merde. Nadal est
non, Fognini.
Hey, puis la Juve à Turin.
C'est Fognini.
Hey, contre l'FC Barcelone. Hey, l'FC Barcelone, là. Ça, parle-moi d'un club de soccer.
Ils sont rendus aux
les Italiens, tout le temps en terre, tout le temps en train de faker, chialer après l'arbitre.
Ah oui, c'est juste eux autres qui faker.
Hey, l'Espagne.
Parle-moi du hurling un petit peu.
Et là, le hurling, personne connaît ça. Le soccer est le sport le plus pratiqué au monde et les Espagnols sont les meilleurs. Hola! Hey, en passant, ça fait des années que je dis hola, moi. Je dis pas bonjour. Quand je fais des textos, je fais hola, hola.
Ah oui?
J'ai comme découvert ça. C'est sûrement dû à mes origines.
Ça fait un peu douchebag aussi.
Sûrement.
C'est douchebag à son espagnol.
Oui, j'ai un 5% de douchebag. Non, mais j'ai l'Espagne. Mais ça n'a pas été ma plus grande surprise. Numéro 2, après l'Espagne, je vais aller rejoindre Pascal et Elisabeth. Mon origine numéro 2, c'est l'Angleterre. Ben, il va falloir que j'apprenne l'anglais un jour. Là, c'est ça qui m'a...
L'espagnol et l'anglais.
Ouais. Fait qu'en passant, tous ceux qui me critiquent parce que je dis bon matin de temps en temps, là, excusez-moi, je vais être raciste, c'est parce que je suis anglais. Alors, j'ai le droit de dire bon matin. Je sais très bien que c'est un anglicisme par rapport à good morning, mais je peux continuer, j'ai le droit. Sinon, vous êtes raciste.
Mais c'est con qu'on n'a pas le droit de dire ça, de toute façon. Moi, je compte ça.
Des fois, je fais attention.
On a le droit de dire bonne nuit, on a le droit de dire bon matin.
Alors, je suis espagnol numéro 1, anglais numéro 2 et numéro 3. Hey, commencez pas à rire.
Non, je ris pas du tout.
On a hâte que tu le dises.
Ma gang d'antisémites, parce que je suis juif. Incroyable!
Alors, c'est fou. Hein? Et ceux qui t'écoutent depuis longtemps savent à quel point tu aimes la Deuxième Guerre mondiale puis tu t'informes beaucoup là-dessus.
Pas,
non, mais je
veux dire,
tu comprends que tu t'intéresses à ça.
Le peuple opprimé, 6 millions de morts.
Non, mais tu t'intéresses à ça plus que la moyenne des gens. Puis on sait jamais.
J'ai pensé à tout ça. Ben non, parce que je ne suis pas le seul à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. Historiquement parlant, c'est un événement marquant. Puis oui, mais j'étais en Israël. Je dois vous avouer que quand j'étais en Israël, on me dit que j'avais une arme juive. Je vous jure.
Ah oui?
Ouais.
Par qui tu sais faire ça?
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire parce que je lis beaucoup, j'aime les débats, j'aime parler.
L'intellect?
J'aime ça.
Non, mais ils savaient pas, juifs, la personne qui t'a dit
souvent ça.
Souvent
ça. Ben non, mais ils m'ont vu faire de la radio. J'ai fait de la radio pendant une semaine là-bas, là. Tout ça. Puis on dit, hey, non, t'as une âme juive, une curiosité par rapport à l'histoire, tout ça, un intérêt. Ils m'avaient dit ça à l'époque. J'avais dit, c'est un compliment. Ça veut juste dire que je m'intéresse à leur pays et à leur culture. Je vois rien de mal là-dedans. Mais là, je repense à ça. Est-ce qu'ils avaient deviné mes origines juives?
Mazel tov, Sylvain.
Incroyable.
Alors, on va lâcher le bon matin. Le show va commencer par Shalom, désormais.
Vaise le hurling dans tes manchettes de sport. Hey, quelqu'un écrit que je devrais partir une ligue de hurling à Québec ici. Alors, rappel à tous les Irlandais avec Pascal aussi.
Il y a déjà Pascal.
Ça va être nous.
On se calme, les cousins. Là. Hein?
Ça va être le lundi soir.
Alors, qui aurait pensé? Oui,
à chaque été, je pense qu'il y a des jeux gaéliques.
Ah oui?
Oui, à Québec.
Alors, on va être là tout le temps.
Alors, morale de l'histoire. Là, je dis ça gentiment. Là. Le plus grand détracteur du soccer dans Bouchard en parle, là, c'est Vez, puis il est italien.
Détracteur,
on fait des blagues.
Ouais, Vez, d'accord.
On rit, là. Le gars qui chiale le plus contre le soccer dans Bouchard en parle est italien. Le gars 100% bleuet, Bouchard et Tremblay, dans les prénoms les plus français qu'il n'y a pas, est espagnol, anglais, puis juif. Jean-Simon Bouy, d'origine vietnamienne et le plus français de Bouchard en parle. Et Pascal et Elisabeth, hey, qui sont...
La matante qui boit pas, c'est une Irish, finalement.
Ça marche pas en tout.
En plein
ça. C'est vrai, c'est parfait ça. Mais je bois depuis la semaine passée maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un intérêt soudain pour la bière.
Hey, ta jupe te fait bien.
Ah oui, merci, écoute.
Ton kilt, je sais pas si t'as respecté la tradition du kilt.
Le vert me fait bien, mais, ça a l'air. Je porte du vert depuis la semaine passée, on m'a dit que ça me faisait bien.
Non, mais c'est, je trouve que c'est un exercice intéressant. Oui, en passant, on le fait pour ça. Vous allez voir un peu qu'on reprend un thème, le racisme, c'est con, en jouant un peu sur les apparences. Dans la, allez voir sur la page Facebook de Bouchard en parle, ça vous tente de partager. C'est une joke, en passant, là, il y a de la caricature là-dedans. Là. Vous allez me voir avec des bleuets, vous allez voir toutes sortes de jokes. Dans le fond, tout ce qu'on veut démontrer, c'est le thème, c'est ne pas se fier aux apparences. Ouais. À quel point, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, j'ai fait référence à des gros épisodes racistes, ou uniquement en raison du nom des ancêtres, de la pigmentation de la peau. On a tellement condamné des gens, alors qu'à l'intérieur, on ne le sait pas. Mm-hmm. On a des origines diverses. Vous savez que ça a également été scientifiquement prouvé qu'il peut y avoir beaucoup plus de différences entre deux personnes de la même couleur. Tu sais, tu peux avoir, là, génétiquement, mettons qu'on fait passer un test d'ADN, les gènes, là, t'as deux personnes qui sont deux Québécois blancs, mettons. Mm-hmm. Puis ils sont beaucoup plus différents au niveau des gènes que si t'avais pris, par exemple, un blanc et un noir ou un blanc un asiatique. Ils peuvent être, malgré la pigmentation de la peau, beaucoup plus proches. Ça aussi, ça a été démontré depuis des années.
En passant, vous êtes des dizaines et des dizaines à nous demander c'est quoi la compagnie avec qui on a fait affaire.
On a pris MyHeritage.
Oui, MyHeritage DNA.
Ouais,
alors, tapez ça sur Google.
Ils sont assez chers, hein, en tout cas, moi, je trouve. Oui,
mais c'est tout cher.
Je pense qu'ils sont bons.
Il y en a plusieurs. Il y a Ancestry, 23. Oui. Il y a plusieurs compagnies. Vous pouvez trouver ça.
Et en passant, je le dis, j'ai fait des recherches. Là, c'est jamais scientifique à 100%. C'est-à-dire, oui, c'est scientifique comme démarche au bout. Les résultats ne sont pas probants à 100%.
Non, ils diffèrent d'une compagnie. C'est impossible.
Il faut faire attention. Il peut y avoir des variances. Mais j'ai lu personne sur Internet me dire que c'est de la merde et que ça vaut rien, là. Zéro et que c'est pas bon. Non. Par contre, ils disent, attention, il peut y avoir des
variations.
Des variations. Anyway, notre but était pas ça. C'était plus de s'amuser un peu sur les apparences trompeuses. 8h04 au FM 93.
Sylvain Bouchard. FM 93. 93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
Vous avez de quoi ajouter? Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait? Aïe, 25226, ou allez réagir si ça vous tente. Vous pouvez le faire entre nous ou sur le post de Facebook Bouchard en parle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait le test et qui ont découvert des affaires? Qui se sont découverts, je sais pas moi, des origines autochtones.
On en a
des
une.
Origines... Tu sais, genre, hey, moi, Bout, j'ai fait ça, puis j'ai vraiment pogné de quoi, puis j'ai...
Virginie nous écrit, je l'ai fait, le test ADN. Moi, je suis né à Wendake, je suis 25% Première Nation, 5% Scandinave, la balance anglais, français, irlandais.
Ah ouais.
Donc, très, très varié, elle aussi.
OK.
Remarque que nous, on n'a pas de sang autochtone.
Non, ça n'a ben, pas donné. Oui, mais peut-être, garde. 25226 ou allez commenter sur la page. Je veux vous lire si vous avez un commentaire là-dessus ou si vous avez fait la même expérience. On commence avec le trafic en pleine heure de pointe.
Oui, c'est compliqué à bien des endroits. Capitale-Ouest a ralenti un peu après Seigneurial, pratiquement jusqu'à Robert-Bourassa. Henri IV, c'est de Sainte-Geneviève jusqu'à Charest. Sur Charest, direction ouest, ça bloque à Jean-Gauvin jusqu'à Robert-Bourassa. Sur Robert-Bourassa, c'est de Capitale jusqu'à Amel. Puis en haut de la côte, là, à l'entrée du tunnel, ça congestionne également pratiquement jusqu'au boulevard Laurier. Et sur la rive sud, c'est très long les attentes avant d'entrer dans les échangeurs, surtout sur la 20. Là, c'est juste après la route Lagueux d'un côté et pratiquement à la raffinerie de l'autre bord avec un petit répit dans le secteur de l'ancienne balance. Et sur la 73, c'est peut-être là où il y a le moins d'attentes pour accéder aux échangeurs qui mènent au pont Laporte.
La circulation présentée par Paquette Nissan. Pendant l'événement Mon Choix, épargnez 6 000 sur le Titan 2019 avec financement à 0% sur 60 mois. Chez Paquette, à Lévis.
À Sainte-Marie-de-Beau, c'est la dévastation. Le centre-ville est en bonne partie couvert d'eau. Une situation qui n'avait pas été vue depuis plus de 100 ans. On dénombre près de 1 000 résidences inondées et on attend d'autres précipitations. Notre collègue Jonathan Bernard est sur le terrain avec vous ce matin. Des milliers de personnes ont manifesté leur mécontentement envers les politiques environnementales du gouvernement caquiste près de l'Assemblée nationale hier après-midi à l'occasion du Jour de la Terre. Des manifestations ont formé une chaîne humaine afin d'exiger davantage d'actions de la part du gouvernement Legault afin de combattre les dérèglements climatiques. Les organisateurs estiment à 5 000 le nombre de manifestants provenant des quatre coins de la province qui ont pris part à l'événement.
Les Hurricanes de Caroline ont provoqué un septième match dans leur série de première ronde contre les Capitals de Washington avec un gain de 5-2 hier, donc septième match demain à Washington. Dans l'Ouest, les Stars de Dallas ont éliminé les Prédateurs de Nashville en 6 matchs avec une victoire de 2-1 en prolongation. Ce soir, il y a 2 matchs numéro 7. Toronto est à Boston et Las Vegas à San Jose.
Et on a du soleil ce matin à Québec. C'est ainsi jusqu'à ce soir. Quelques passages nuageux aussi, maximum de 10 degrés qui est prévu. Et pour demain, mercredi, on a de la pluie, risque de pluie verglaçante, même en terrain élevé assez tôt le matin avec un maximum de 4 degrés. À Québec, il fait 6.
La météo présentée par Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair. À Québec, tout le monde cherche le nouveau Telluride 2020. Les gros VUS comme les Explorer, Durango et Acadia ont désormais une concurrence asiatique. Et c'est le temps de passer voir la bête. Il y en a 10 chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
C'est FM 93. Ça me parle.
Pour l'achat ou la vente de votre propriété, Michel Ferland s'occupe de tout pour vous. C'est une grosse transaction, probablement la plus importante que vous allez faire dans votre vie. Pourquoi faire ça tout seul? Faites affaire avec un courtier. Si vous devez acheter une maison, mais le service est gratuit avec le courtier. Il va vous aider à obtenir la meilleure maison dans le meilleur secteur pour vous. Il va s'occuper de tous les documents légaux pour vous. Et si vous voulez vendre votre maison, ben écoutez, faites affaire avec un courtier. Vous allez obtenir le meilleur prix pour votre propriété. Il va s'occuper de faire les communications avec l'acheteur aussi. Il va s'occuper de tout, vous allez pouvoir continuer à vaquer à vos occupations. Et une fois que vous avez décidé de faire affaire avec un courtier, bien, faites affaire avec le meilleur. Et le meilleur, c'est Michel Ferland. En plus d'être vraiment sympathique, bien, il vous offre gratuitement les programmes Tranquillité et Sécurité. Il y a très peu de courtiers qui offrent ces programmes-là. Ça vaut vraiment la peine. Michel Ferland, courtier immobilier résidentiel, Remax Avantage. Visitez michelferland.ca. Michelferland.ca.
C'est le retour de la ruée vers l'or chez Beauport Mazda. En avril, à l'achat d'un véhicule d'occasion, courez la chance de gagner un lingot en or massif valant 2 000 $. Unique à Québec. Voyez notre large éventail de véhicules de toutes marques pour tous les budgets. Couvrez-vous d'or chez Beauport Mazda.
Avez-vous entendu parler de Tresiba? L'insuline des Gludec Tresiba est offerte avec le dispositif privilégié FlexTouch. Tresiba est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, ou RAMQ, comme médicament d'exception, et aussi par la plupart des régimes d'assurance médicaments privés. Consultez votre médecin dès aujourd'hui pour savoir si Tresiba vous convient.
Un véhicule d'occasion, c'est bien le fun, mais faire 36 places pour en trouver un à ton goût, tu veux pas ça. Chez Boulevard Toyota, un choix de plus de 225 véhicules au même endroit, tu veux ça. Et le club Prestige qui vient avec chaque Toyota d'occasion, comprenant la garantie à vie sur le moteur et les plaquettes de frein, 25 % de rabais sur les changements d'huile et 15 % sur tous les travaux, pièces et main-d'œuvre, ça, tu veux vraiment ça. Boulevard Toyota, tu veux ça.
Je vous parle de Calinette CC6. Bon, évidemment, là, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont maintenant aux prises avec des problèmes de dégâts d'eau. Tu sais, à l'année longue, je vous le dis, je vous le souhaite pas. Si jamais ça vous arrive, je vous souhaite Calinette. Ben là, matin, je vous souhaite Calinette. Ouais, mais là, ils doivent être dans le jus. Des gens qui se demandent peut-être ça matin. C'est les meilleurs Calinettes, tu nous le dis, à l'année. On est sur le bord de les appeler. Là, on a été évacués, on n'est pas encore rentrés, mais on pense les appeler. Tu nous parles de leur expérience, qu'ils vont s'occuper non seulement de nos biens matériels, mais de notre santé. Il y a plein d'affaires qu'on pense là, que ça va être fini, perdu. Ils font des petits miracles, oui. Mais est-ce qu'ils vont être capables de répondre à la demande? Calinette, c'est gros. On est leader au Québec. On a des équipes partout. Actuellement, on a demandé en renfort à des régions qui sont pas touchées, à des gens de converger vers les zones sinistrées. Oui, je vous le dis, ça répond, puis rapide, on arrive en premier, les meilleurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Calinette est là, CC6.
C'est le retour de la ruée vers l'or chez Beauport Mazda. En avril, à l'achat d'un véhicule d'occasion, courez la chance de gagner un lingot en or massif valant 2 000 $. Unique à Québec. Voyez notre large éventail de véhicules de toutes marques pour tous les budgets. Couvrez-vous d'or chez Beauport Mazda.
Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle. FM 93. Ça me parle.
8h11, Vez.
On nous signale un accident impliquant plusieurs véhicules sur Amel, direction ouest, après Père-le-Lièvre, là, entre Père-le-Lièvre et Saint-Sacrement. Ça crée un refoulement là, qui commence quasiment à Marie de l'Incarnation. Ça fait qu'Amel ouest, dans le secteur Vanier, c'est à éviter.
OK, merci. 8h11, passage très, très, très remarqué et controversé de Omar Kader à Tout le monde en parle. Il était l'invité de Guillaume Lepage. Je vous raconte un peu, on va revenir tantôt là-dessus parce que là, c'est parti sur les médias sociaux, dans les médias en général, partout, dans les conversations. Beaucoup, beaucoup de gens sont en colère, notamment. Il faut dire qu'Omar Kader a été ovationné lors de son entrée. Ça, déjà, ça a choqué des gens. On sait qu'il a reçu déjà 10 millions du gouvernement canadien. Ça avait déjà été controversé. Guillaume a fait une entrevue, on en parlera tantôt, où il a abordé plusieurs questions, mais pas toutes. Remarque, on n'a pas le c'est le montage, on n'a pas l'intégral. Ce que j'aimerais faire ce matin, avant d'en parler avec vous, oui, on va en parler, c'est d'essayer de se concentrer sur certains faits. L'histoire d'Omar Kader, est-ce qu'on a tous les faits, là? À quel âge? Il y avait quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on sait de prouver sur ce qui a pu se passer en Afghanistan? Parler de sa famille, ses conditions de détention à Guantanamo, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, etc. On va s'en tenir un peu à ça. Ensuite, on pourra peut-être... On va vite, des fois. Hein? Moi, j'ai vu toutes sortes d'affaires circuler, là. Oui. Des fois, c'est exact. Des fois, tu dis, oh, ça, je suis pas sûr. Alors, on va se tourner. Je le précise tout de suite. Mon prochain invité a écrit un livre où il prend le parti d'Omar Kader. Sauf qu'avant d'avoir une opinion, quand t'écris un livre, etc., c'est un docteur en droit, il a vraiment enquêté et fouillé sur le dossier. Alors, son opinion, on le connaît. Il pourra se prononcer sur ce qui s'est passé à Tout le monde en parle. Mais moi, je veux d'abord connaître le plus précis possible l'histoire d'Omar Kader. On se tourne vers Frédéric Bérard. Il est docteur en droit et auteur de « La fin de l'état de droit ». C'est un livre qui porte sur l'histoire d'Omar Kader. Monsieur Bérard, bon matin.
Bon matin.
On va commencer par le début. Tiens, je vais reculer en arrière un peu, là.
Juste avant de reculer, juste préciser...
Allez-y.
Les deux livres en question traitent de l'affaire d'Omar Kader dans des chapitres... distinct, mais mon prochain livre va porter sur l'affaire d'Omar Kader à 100%.
OK, vous l'avez abordé dans les deux précédents livres, mais pas, on parlait pas juste de ça. Mais le prochain va être là-dessus. Donc, vous avez enquêté, vous avez fouillé. Parlons de son enfance. Est-ce que j'ai raison? Là, je vais tout vous nommer des affaires qui circulent. Dites-moi si on est dans le vrai ou pas. Omar Kader a été élevé dans une famille de proches de Ben Laden. C'est vraiment des gens qui étaient proches. Ça, c'est exact?
C'est exact.
Son père, ses sœurs, tout ça?
Son père, un peu sur le tard, mais son père était effectivement un complice, un collègue de Ben Laden. Ben Laden est même déjà allé au mariage de sa sœur, en fait.
OK. Est-ce que sa famille, au-delà de l'amitié envers Ben Laden, c'est déjà quelque chose, mais est-ce que sa famille a participé activement à Al-Qaïda, aux talibans? C'était quoi leur rôle? Parce qu'on mentionne que c'était un enfant soldat, on va en parler tantôt, mais si c'est un enfant soldat, il y a donc des gens qui l'ont influencé à devenir un enfant soldat. Est-ce que sa famille, c'était des gens qui ont participé à des activités terroristes?
Des activités terroristes, son père, oui.
OK.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a élevé ses fils de la même manière, parce qu'il n'y avait pas juste Omar, là, il y avait d'autres fils aussi. De la façon qu'il les élevait, je vous donne deux, trois petites anecdotes rapidement, mais juste pour vous donner une idée. Dès qu'Omar avait 4 ans, 5 ans, il est rentré dans cette espèce d'éducation-là qui voulait faire en sorte que tu dois tuer l'Occident, autrement c'est nous qui allons te tuer. Première des choses, le père Kader a déjà dit ça à un de ses fils. Si tu reparles encore une fois contre l'islam radical, c'est moi qui vais te tuer. Autre chose, le jour où, les gars, vous allez vous faire sauter pour notre cause, eh bien, vous aurez droit à tout ce que vous voulez au paradis. Moi, par exemple, le père, moi, je vais avoir une chute d'eau avec un éléphant blanc. Un frère de Kader, lui, voulait avoir un stationnement avec des véhicules de luxe. Kader lui-même, Omar, il était tout petit, il avait 5 ou 6 ans. Il dit, ben moi, je vais avoir une piscine pleine de jello. Vous voyez le genre de truc qui a émané dès le début. Là. Ce gars-là a été brainwashé dès son... Ça a pris tant d'enfance, si on peut appeler ça une tant d'enfance.
OK, alors ça, c'est l'environnement familial d'Omar Kader. On se transporte
juste
maintenant...
Juste pour préciser, oui, M. Bouchard, allez-y. Rapidement, c'est que le père Kader, là, je le décris comme un Mongol, et c'est un Mongol, mais c'est un ingénieur qui était quand même respecté, qui a étudié à l'Université d'Ottawa. Ça, c'était ses activités parallèles. Okay? Dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un qui avait de l'allure, les gens ne soupçonnaient pas nécessairement d'eux. Même que le gouvernement canadien lui avait donné des mandats ici et là en Afrique, parce qu'on le considérait comme étant un ingénieur intéressant.
OK. Alors, Omar Kader grandit dans cette famille-là. Il est brainwashé, etc., par son père, par l'environnement. Maintenant, on se transporte pendant la guerre en Afghanistan. Là, il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on est en mesure? Il y a quand même eu beaucoup d'enquêtes, des procès, etc. Il y a des cours qui se sont prononcés. Alors, c'est quoi le rôle actif de Omar Kader au moment où on le retrouve sur le champ de bataille?
Ben, je vous corrige sur un petit truc déjà en commençant. Et c'est ça le problème principal. Puis c'est ce que les gens croient. Puis c'est ce qui amène, tant qu'à moi, les conséquences qu'on a là, dans l'opinion publique, Il n'y a jamais eu de cour qui s'est prononcé là-dessus. C'est ça la beauté de l'affaire. Il n'y a jamais eu un seul tribunal qui a été capable de dire Kader est coupable du meurtre de Speer. Jamais. Il n'y a jamais eu de procès. On l'a torturé pendant 10 ans à Guantanamo, mais il n'y en a pas eu de procès. J'imagine qu'on y reviendra, donc je vais répondre à votre question. L'histoire, évidemment, ça se passe vite, tout ça, mais ce qui est démontré dans les faits, et moi, je vais vous parler seulement de faits, c'est qu'il y a eu une embuscade en Afghanistan. Les soldats américains étaient débarqués sur place. Ils ont rasé une partie du village en question. Et Kader et d'autres collègues de combat, là, je vais les appeler comme ça, ça a été la débandade. Tout le monde s'est fait tuer, sauf Kader, qui, en sauvant, s'est fait tirer de dos. Il est tombé. On l'a ramassé, on l'a réveillé par la suite. Et on lui a toujours dit, c'est toi qui as lancé la grenade qui a tué le soldat Speer en question, qui était l'Américain dont on parle. Kader a toujours nié cette version, mais évidemment, les Américains n'ont jamais été capables de le prouver non plus. Donc voilà, ça, c'est ça. En gros, là, je vous dirais là, que c'est pas mal l'histoire.
OK. Lui... Ça, évidemment, ça se complique. Là, on va parler un peu de la détention à Guantanamo parce qu'il finit par avouer. Aujourd'hui, il dit qu'il a dit ça parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc, après ses années de prison, je ne sais pas à quel moment, il finit par avouer que c'est lui qui a lancé la grenade, alors qu'aujourd'hui, sa version, on l'a entendu encore en fin de semaine, sa version, c'est « je m'en souviens pas, j'ai perdu connaissance, on m'a réveillé, on me dit que c'est moi qui a lancé la grenade. En réalité, je m'en souviens pas. » Mais il a fini par avouer lorsqu'il est à Guantanamo. C'est bien ça?
Moi, je vais, ouais, puis je tiens à préciser un truc qui est important.
Ouais.
C'est que toutes ces années-là à Guantanamo, en théorie, premièrement, il ne devait même pas être là parce que les conventions internationales sur les enfants soldats protègent ces enfants-là. Je me dis, oui, mais il avait 15 ans, c'est pas un enfant, c'est un ado. Les conventions s'appliquent quand même, première des choses. Puis là, rappelez-vous tout le brainwash dont on parle, là. C'est facile, ça, de dire, ouais, mais à 15 ans, tu sais ce que tu fais. Ouais, mais attends, là, si tu as été élevé depuis l'âge de 4 ans avec un père mongol comme celui-là, ça se peut qu'à 15 ans, si tu as été coaché par Osama Ben Laden et compagnie, que depuis t'es petit, ça se peut que t'aies pas nécessairement le libre arbitre de Jean-Paul Sartre. Je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Puis si on revient à la question de l'aveu comme tel,
oui.
Ces aveux-là ont été obtenus après 10 ans de torture. Et c'était pas un aveu, qu'on se comprenne bien, là. C'était pas un aveu formel, c'est qu'on lui a fait plaider coupable. Puis pourquoi il a plaidé coupable, Kader? C'est parce qu'il voulait sortir de là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à gagner, que jamais, au final, il y aurait de procès, parce que c'est vrai, il n'y a jamais eu un procès. Il y a eu un simulacre de procès devant la commission militaire qui a duré 2 jours, puis ça a foiré tout de suite, puis il n'y a pas eu de condamnation. Alors, et puis rappelez-vous une affaire, il a été condamné à 8 ans de prison après avoir plaidé coupable. 7 ans à Guantanamo, 1 an au Canada. Pensons-y 2 secondes, là, M. Bouchard. Pensez-vous vraiment que si les États-Unis avaient de la preuve à l'effet que c'est lui qui a lancé la grenade, pensez-vous qu'on l'aurait laissé partir après 8 ans de prison? On l'aurait condamné à vie, ou pour pas dire sur la chaise électrique. Moi, je pense que la réponse est assez claire, là.
Parlons
si
de la...
un soldat américain dans un truc comme ça, tu ne laisses pas partir le titu après 7-8 ans, ça, c'est pas vrai.
Parlons de la torture, parce que les gens ont beaucoup protesté quand il y a eu le 10 millions, parce qu'on a entendu toutes sortes d'affaires, pourquoi on donne 10 millions, pourquoi. Bon, évidemment que ça fait référence au mauvais traitement à Guantanamo. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Évidemment, la transparence n'est pas totale, il y a des choses de cachées. Est-ce qu'il était torturé au quotidien? C'était une fois par semaine, il y a des gens qui disent qu'il était blessé, donc ils ont quand même tenu compte de ça, puis il y en a eu un peu moins que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison-là pour Omar Kader?
Bon, moi, j'ai la chance d'être en contact avec Denis Sennin, qui est l'avocat de Kader, un des avocats de Kader, qui est allé aider, entre guillemets, Kader, là, à Guantanamo, sans le connaître. Et lui m'a raconté certains trucs sur la torture. Il y a des choses qui sont fuites, il y a des rapports qui ont été publiés là-dessus. Puis il y a d'autres choses qui, comme vous dites, là, vous avez parfaitement raison, qui sont assez opaques.
Ouais.
Dans le nombre de tortures qu'on a pu vérifier, il y a eu le waterboarding, le bon vieux classique qu'on voit dans les films, là, vous mettez la tête en dessous de l'eau jusqu'à temps que le gars fasse plus de ballon, puis on essaie de soutirer un aveu. Ça, c'est un truc qui est pas très sympathique, mais c'est peut-être pas ironiquement la pire des choses. Kader, on l'attachait à sa cellule au sol sur une plaque de ciment. Et on l'attachait là avec des menottes là, rangées au sol comme tel. Donc, il passait ces nuits-là. L'autre affaire, quand les agents canadiens, donc du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, sont allés là pour l'interroger, pour y faire sortir des aveux, là, aveux qui ont été considérés parfaitement illégaux. Pourquoi c'est illégal des aveux de torture? Ben parce que ça vaut rien. Moi, si vous m'arrachez un nom, M. Bouchard, là, vous pouvez me faire dire que j'étais là à Baie des Cochons, puis c'est moi qui ai tué Kennedy, je vais vous dire ce que vous voulez. Okay? C'est pour ça que la torture est prohibée en droit international, en droit canadien, puis partout dans les États qui ont de l'allure, parce que l'aveu ne vaut rien. Donc, on a fait du waterboarding. On a préparé Kader pour ses interrogatoires en lui faisant la privation de sommeil. La classique privation de sommeil, c'est quoi? C'est qu'à chaque nuit, on vous laisse dormir une demi-heure, trois quarts d'heure au max dans une cellule. On vous sort de là, on vous bardasse, on vous fait marcher une autre demi-heure un peu partout, on vous recouche et ainsi de suite. Et on a fait ça pendant trois semaines. On l'a brûlé raide avant ses interrogatoires en disant on va obtenir des aveux plus facilement. Autre affaire, puis là, ça va devenir de plus en plus dégueulasse, je vous avertis. Des soldats américains se relayaient, notamment la nuit. Ça, c'était le classique, c'était bien drôle apparemment, pour aller déchecker sur Kader pendant que Kader dormait. Peut-être pas à tous les jours, là, mais ici, là, une fois de temps en temps, quand ça leur tentait. Ça, c'était une activité de groupe. C'était bien comique, ça. Une autre affaire aussi, c'est que... puis ça, c'est quand même assez trash. On a invité des fauves dans sa cellule. Des tigres. C'est pas le tigre des Feral Frosted Flakes, là. C'est un vrai tigre, là. Vous vous réveillez dans votre cellule, vous êtes couché au sol, vous avez des menottes, vous ne pouvez pas bouger, puis vous réveillez avec un tigre. Wow.
Alors, on a parlé de son enfance. On a parlé de ses années, donc, à Guantanamo, etc. Aujourd'hui, Omar Kader, le Omar Kader qu'on a vu, tout le monde en parle en fin de semaine, et qui a beaucoup fait réagir, c'est plus un enfant, c'est un homme. Il y a certaines questions que Guilla, à mon avis, c'est ma principale critique de l'entrevue, n'a pas posées. Alors, je me permets de vous les poser. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez dit, je suis en contact avec son avocat, Qu'est-ce que Omar Kader a à dire sur l'islam radical? Plusieurs personnes le présentent comme une victime de l'islam radical, de Ben Laden, sa gang-là, des Mongols, tout ça, moi je vous suis là-dedans. Mais on sait qu'il est encore croyant. Et moi je fais la distinction, on peut encore être un croyant musulman correct. Est-ce que, moi je l'ai pas entendu, peut-être que je l'ai raté, peut-être qu'ailleurs il s'est prononcé, mais en tout cas en fin de semaine on l'a pas vu, tout le monde en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, il dénonce l'islam radical, la charia, le djihad. Vous en avez parlé tantôt avec des mots très durs, puis je vous suis. Parce que on sait qu'il y a encore des contacts avec sa famille. On sait qu'il a demandé une certaine forme de libération pour aller voir sa sœur, si je ne m'abuse. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, coudonc, y est-tu encore là-dedans, permettez-moi l'expression, ou au contraire, si on le présente comme une victime de l'islam radical, ça devrait être quelqu'un qui dénonce, puis est même peut-être capable de nous dire, regardez tout le danger de cette religion-là quand elle est mal interprétée. Alors, c'est quoi sa position face à l'islam aujourd'hui?
Votre question est ultra, ultra pertinente. Je ne connais pas la réponse, vous ne compterez pas d'histoire, pour la simple et bonne raison que Kader ne s'est jamais prononcé là-dessus. Ce que je sais, par contre, c'est que quand il a fini par être libéré en 2015, tout juste avant l'élection, il y en a qui disent « Ah, il a été libéré par Harper ». Ça c'est, j'ai lu ça sur le mur de Dominique Moret, c'est n'importe quoi. Harper a jamais tenté de quelque façon que ce soit de libérer Kader, c'est le grand contraire. Et ce sont les tribunaux qui ont fini par le libérer avec condition au début. Mais quand on l'a libéré, il est allé en conférence de presse, vous vous souvenez peut-être de ça, dans la maison de son avocat, Edmi, qui a répondu à plusieurs questions, puis oui, d'après ce qu'il dit, moi ça me semble évident, il a été instrumentalisé par cet islam radical, il le critique, ça me semble assez clair. Est-ce qu'il le critique de manière publique, de manière forte, et tout ça, ça c'est une autre histoire, je pense qu'on lui a à peu près jamais posé la question, du moins dans toutes les entrevues que j'ai vues, pour que ceci dit, il véhicule de me dire, oui, mais là c'est peut-être l'hypocrisie, tout ça. Tout ce qui plaide jusqu'à maintenant, c'est, regarde, laissez-moi devenir un bon citoyen canadien, je veux vous montrer que vous méritez ma confiance, et ainsi de suite. Et là, depuis qu'il est sorti, là, ça fait bientôt 5 ans, c'est de valeur, là, mais il ne s'est même pas fait arrêter pour avoir brûlé un stop ou volé une gomme ballon. Il est tranquille, il fait ses affaires, puis est-ce qu'il renie l'ensemble de sa famille? Non, mais est-ce qu'il critique de son éducation? Clairement, puis ça, il le dit. Est-ce qu'il est critique de ces mouvements-là? Oui, mais est-ce qu'on lui a posé la question sur la charia et tout ça? Pas à ce que je cherche, pas de ce que j'ai vu. Ça serait peut-être une question intéressante, effectivement. Mais franchement, si la question que vous posez, puis je pense que c'est ça,
traite davantage du degré de dangerosité de Kader, là. Puis ce gars-là, il est étudiant en technique ambulancière. Il est tranquille, pour pas dire qu'il est plate en mort. Moi, franchement, j'avais absolument aucun doute. Puis je vous dirais que quand c'est fini par être libéré, en 2015, Stephen Harper s'en allait en élection, avait bien plus peur que Kader soit un bon Jack que le contraire. Si Kader avait pu faire sauter une boîte à mal, là, à Edmonton, où je me trouve en ce moment, croyez-moi que Harper aurait été le plus heureux des politiciens. Le problème, c'est que ça fait bientôt 5 ans, puis il est tranquille, puis on n'en entend pas parler autrement. Puis moi, franchement, je connais un petit peu Denis Sedney, pas beaucoup, mais juste assez pour savoir que c'est un gars qui marche droit, c'est un gars qui est juste. Et Kader a habité chez Sedney pendant longtemps. Il s'est marié depuis avec une militante pour les droits de la personne ici en Alberta. Mène une vie, je dirais, assez plate, assez ordinaire, assez critique de tout ce qu'il a vécu, oui, évidemment, sur l'instrumentalisation. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin si on lui posait la question? Ça, franchement, ça reste à voir.
Frédéric Perrand, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci.
Ben, merci à vous, c'était bien agréable.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Frédéric Perrand est docteur en droit et auteur notamment de La fin de l'état de droit, où il aborde la question d'Omar Kader. Son prochain livre va porter uniquement là-dessus. Est-ce que vous en avez plus pour vous faire une opinion? Je pense que oui. Je pense que ça a été éclairant. Le reste, je connais les positions des gens, c'est extrêmement tranché là-dessus. Moi, il y a des choses que j'ai apprises là-dedans. Et il y a des zones d'ombre. Il y a encore des zones d'ombre. Oui. Dans le fond, et M. Bérard a été très clair, ce qui s'est passé exactement au moment où arrive l'altercation en Afghanistan, la réponse la plus juste et honnête, c'est qu'on ne le sait pas.
Exact. Il ne le sait pas, lui non plus, Omar Kader. Ben, il l'a dit dans son entrevue.
Il a avoué, mais dans les conditions que M. Bérand a décrites.
Ouais.
Est-ce qu'un aveu sous la torture est un aveu acceptable? Là-dessus, moi, je ne suis pas gêné de vous dire, c'est non. Non.
Non.
Moi, tu pourrais me faire dire bien des affaires. Hein. Je suis d'accord aussi. Là. La torture dans notre système de droit pour recueillir des aveux, c'est inacceptable. Alors, si les aveux de Kader comptent pas au niveau des témoins, au niveau des enquêtes, au niveau des...
Et il l'a expliqué, ça, bon. Tout le monde en parle. Il dit, pendant 8 ans, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est moi qui l'avais lancé la grenade. Alors, c'est ce que je pensais. Et au moment du procès, quand j'ai entendu des témoignages qui proposaient un scénario différent, là, c'est devenu mêlé dans ma tête. Puis il dit, je me souviens pas comment
mais
ça
pour
s'est
moi,
passé.
C'est, évidemment que c'est important, l'affaire. C'est ça qui a occasionné son emprisonnement. Mais êtes-vous d'accord que, anyway, que ça soit lui qui l'ait tiré ou non, la grenade. Il était dans la gang à Ben Laden.
Ben oui.
Alors, comme tel, là, ce gars-là était dans la gang, puis M. Bérard l'a pas caché, vraiment proche de Oussama Ben Laden. Maintenant, il avait 15 ans. On s'entend que s'il avait 18 ans, ce serait autre chose. Notre système de droit est fondé là-dessus. Tu peux être un enfant soldat, si j'ai bien compris, selon les conventions.
Jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 18 ans. Bon. Alors, à 15 ans, c'est un enfant soldat. Mais il vient d'une famille, si vous voulez me le présenter comme une victime, c'est ce qu'on a fait, tout le monde en parle. On nous a présenté la victime, Omar Kader, OK. Victime de brainwashage par des musulmans radicaux. Ensuite, victime de la torture, tout ça. La question qu'aurait fallu y poser, je comprends pas que Guillaume l'a pas fait. Aujourd'hui, Omar Kader pense quoi de l'islam radical? Mettons qu'il te fait une sortie, ça aurait été valable, ça aurait été bon. S'il dit, moi, là, je me propose de faire une tournée des écoles, m'a donné des conférences, m'a écrit un livre sur le brainwashage des musulmans radicaux, à quel point vous pouvez gâcher des vies. Regardez, là, c'est peut-être pas moi qui a lancé la grenade, mais Spear est encore mort, le soldat américain, puis il y en a un autre d'aveugle. Il venait toujours bien combattre les talibans, puis les talibans, c'est ma famille. C'était ma gang, même très proche de Ben Laden. Donc, moi, je plaide que j'étais un enfant brainwashé à 14 ans. Je sais qu'il y en a qui ne l'acceptent pas, mais je pense qu'il y en a certains...
Ça commençait à 4-5 ans, là, depuis M. Bérard. Ouais. Là, depuis 4-5 ans, il commençait, puis à 11 ans, il était dans les camps de formation islamiste d'Al-Qaïda. Là. Il avait été envoyé là.
Alors, mettons, OK, pour la discussion, qu'on accepte ça.
Ouais.
Maintenant que c'est un homme, maintenant qu'il y a 10 millions, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut faire œuvre utile? Est-ce qu'il peut témoigner des dangers de l'islam radical? M. Bérard a été honnête, il dit peut-être, mais on ne l'a pas entendu. Parce que la question n'y est pas posée. Pourquoi vous n'êtes pas capable de regarder ça?
Mais tu sais, il est libéré depuis 3 ans pu... seulement.
Oui, non, je sais. Là, si vous dites, donne-y du temps, il va peut-être...
Il dit qu'il travaille encore à sa guérison, il travaille encore sur lui-même. Mais tu sais, si dans 10 ans, il n'a encore rien fait, je pense qu'on va pouvoir dire quelque chose. Là,
parce qu'il a démontré
ans,
des signes. Et je ne veux pas trancher, je veux être honnête. Il voulait aller à la Mecque tout de suite. Aller à la Mecque, ça fait pas de toi un radical, mais pas du tout. Tu peux être un musulman modéré à aller à la Mecque. Mais c'est une des choses qu'il a demandé en sortant. Et il a demandé à reprendre contact avec des membres de sa famille. Ça, je vous avoue que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup questionné. Là, que c'est ça, là? Bon, il est-tu obligé de tout couper les liens? Mais
il y a des neveux et nièces. Il l'a mentionné, ça aussi, dans l'entrevue.
C'est pas toute sa famille. Il y a des zones d'ombre et des nuances, Élie. Mais tu comprends que moi, je regarde ça, puis je fais comme, ben là, t'as peu, là. T'es rendu où aujourd'hui, Omar Khader? Où t'es par rapport à l'islam radical? Si t'en es une victime, tu sais.
Non, oui, c'est ça. Ça aurait été fun de se poser la question. Il y a juste une chose, par exemple, que je veux un petit peu là, clarifier, puis je suis contente qu'il y ait des personnes qui nous fassent remarquer au 25-226, parce que c'est la critique qu'on a entendue tout le week-end. Il a reçu une ovation debout à son arrivée. Tous les spectateurs qui sont à l'enregistrement de Tout le monde en parle se lèvent et applaudissent au moment où l'invité arrive en salle. Il n'y a pas eu plus d'applaudissements, au moins, pour Omar Khader. Il y a eu exactement le même traitement que tous les invités reçoivent.
Tu fais bien de le rappeler, mais moi, je serais resté assis. Moi, je pense que Guy a le droit de recevoir Omar Khader. Là-dessus, moi, écoute, la liberté d'expression, le garde, go, il pense pas comme toi, reçois-le, jase-y, confronte-le. Moi, je suis pas contre les entrevues, je vois pas de scandale sur sa présence. Je pense que les gens auraient dû, compte tenu de ce que je viens de dire, qu'il y a encore des zones d'ombre. Il y a des affaires qu'on sait pas. Il y a des trucs qu'Omar Khader n'a pas encore dit sur ses relations avec sa famille, tout ça, je veux pas me répéter. Moi, je serais resté assis. Tu te lèves debout, tu l'applaudis. Si c'est une victime, c'en est peut-être une, mais c'est pas encore un héros. Comprenez-moi bien, là. C'est loin d'être encore un héros. Là, t'as un peu, là. Moi, j'ai encore des questions, mais j'ai des réponses. Quand tu te lèves puis t'applaudis, je trouve ça calme.
Je comprends, mais c'est peut-être la consigne de
l'enregistrement. C'est la faute de Guillaume, que c'est la faute de je sais pas qui, là. L'animateur de foule qui a craint qu'elle monte, puis l'effet de foule, tu dis, garde, on se lève. Je sais bien. Mais moi, j'ai trouvé que ça donne une mauvaise image.
C'est pas un héros. C'est pas un monstre, c'est quelque chose entre les deux, mais on sait pas exactement c'est quoi.
Puis il faut continuer à le questionner, puis tout ça. Est-ce qu'il est dangereux aujourd'hui? Ça, là-dessus, s'il y a des gens qui craignent, je pense pas.
Mais juste à préciser aussi, une chose qui a été critiquée aussi, c'est Woody Belfort, qui est l'athlète en fauteuil roulant, qui est invité aussi à Tout le monde en parle, le jeune de 22 ans, qui l'a un petit peu encensé. Il a dit que c'était extraordinaire, puis que bon, c'était un héros. Les paroles exactes, je sais plus, mais l'encensé, ça crée un énorme malaise auprès de sur la toile, évidemment. Mais ça, c'était les paroles de Woody Belfort. Là. C'était pas les paroles de Radio-Canada, ni de Guillaume Lepage.
Et il parle au nom de qui, lui?
De lui-même.
De Woody Belfort.
Exact.
Il a pas le droit.
Bon, ben, c'est ça, son opinion. Pas d'accord, ça s'arrête là, mais je pense qu'on questionne beaucoup, surtout le fait, l'ovation, puis le fait qu'il a été reçu sur le plateau. 8h25 de 26. Est-ce que vous avez appris des choses? Il y a des gens qui sont bien informés, qui suivent ça de près. Qu'est-ce qu'on vous en pensez du traitement qu'a reçu Omar Khader? J'ai hâte de vous lire. 25226.
Bouchard en parle est présenté par Matelas Dauphin qui fête son 49e anniversaire. Des économies sur tous les matelas. Plus payé en 36 versements où il paye les deux taxes pour un temps limité dans tous les matelas Dauphin.
Sylvain Bouchard, FM 93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
8h34, Vez. Du côté du trafic, on avait un gros accident, boulevard Amel, comment ça se passe?
Oui, boulevard Amel, direction ouest, après Père-Lelièvre, entre Père-Lelièvre et Saint-Sacrement. D'après ce que je vois, là, c'est encore difficile sur Amel, dans ce secteur-là. Mais à partir... de la rue Proulx à peu près, là, pratiquement jusqu'à dans le coin du Minipot là, sur Amel. C'est peut-être un secteur à éviter. Donc, Amel, direction ouest. Ailleurs, dans la grande région de Québec, là, sur Capitale, direction ouest, il y a encore du monde pas mal à partir de Bourg-Royal jusqu'à Laurentienne. Sur Laurentienne, il y a l'accès à Robert Bourassa où il y a une petite attente. Sur Robert Bourassa, c'est de Capitale, même Le Bourgneuf jusqu'à Amel. Et après ça, de Charest jusqu'à Laurier, c'est difficile. Laurentienne, Henri-IV-Sud plutôt, c'est de Chauveau jusqu'à Charest. Sur Charest, ça ralentit en arrivant à Duplessis. Et sur Henri-IV, mais en direction nord, de Chemin-Sainte-Foy jusqu'à Charest, c'est difficile. Et sur la Rive-Sud, ça commence à s'améliorer un peu là, pour l'accès au pont Laporte.
La circulation présentée par l'événement Mon Choix de Paquette Nissan à Lévis. Choisissez entre 3 paiements mensuels à nos frais, une réduction de taux de 1 point de pourcentage ou jusqu'à 3 000 $ de rabais.
Nos yeux sont tournés vers Sainte-Marie-de-Beauce où c'est encore un spectacle de dévastation qui malheureusement est à nos yeux. Il y a encore plusieurs rues qui sont barrées, le centre-ville couvert d'eau en bonne partie, plus de 1000 résidences inondées et ceux qui ont été évacués qui ne savent pas encore quand ils pourront réintégrer leur domicile. Notre collègue Jonathan Bernard est avec vous sur le terrain ce matin. Et des Canadiens d'origine sri-lankaise se sont rassemblés hier afin de pleurer ceux qui ont été tués lors des attentats terroristes coordonnés dans leur pays natal dimanche. Pendant ce temps, Ottawa conseillait aux Canadiens qui se trouvent actuellement au Sri Lanka de faire preuve d'une grande prudence. Le bilan a été revu malheureusement à la hausse avec 310 personnes qui ont été tuées, des centaines d'autres blessées dans une série d'attentats à la bombe coordonnée qui ont secoué dimanche des églises ainsi que des hôtels de trois villes du Sri Lanka.
Rappelons la victoire de la Caroline 5-2 sur Washington hier. Il y aura donc un septième match dans cette série-là demain à Washington. Dans l'Ouest, Dallas a éliminé Nashville en six matchs avec un gain de 2-1 en prolongation hier. Ce soir, il y a deux matchs numéro 7, Toronto à Boston et Las Vegas à San Jose.
Et on a du soleil ce matin à Québec. C'est ainsi jusqu'à ce soir avec quelques passages nuageux, maximum de 10 degrés qui est prévu. À Québec, il fait 6.
La météo présentée par Kia Québec 5 fois et Val-Bélair. Vous rêvez peut-être de passer à l'électrique? Allez-y par étapes. On a 40 Niro L 2019 hybrides en inventaire à 26 630 $. Garantie 5 ans, 100 000 kilos. Moitié électrique, moitié essence. Le meilleur des deux mondes.
FM 93, ça me parle.
Normandin fête ses 50 ans. Pour faire ça, évidemment, il faut innover toujours. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers et dire, regarde, les gens aiment ça, Normandin, ça va rester de même constamment. Il faut s'améliorer. La lasagne, Normandin, es-tu bonne? Ah! Oh! Moi, j'adore ça. OK, que ce soit la lasagne suprême ou la lasagne traditionnelle. Et là, on vient d'en sortir trois autres sortes de lasagne. Alors, rendez-vous dans l'un des 41 restaurants normandins, puis offrez-vous la totale. D'abord, la lasagne aux saucisses Sochaux, faite avec de la sauce rosée, de la saucisse italienne Sochaux, poivron rouge et verte, oignon rouge et fromage. Honnêtement, c'est goûteux, ça sort de l'ordinaire, c'est magnifique, toujours servi avec un choix de salade ou frites et un pain à l'ail. De nouvelles lasagnes. On a laissé les traditionnels, là, pour ceux qui disent, moi, je veux pas que ça change. J'aime ça, regarde, vous allez retrouver le même bon goût, mais on innove présentement. Normandin, pour toute la famille, Normandin à vos côtés depuis 50 ans.
FM 93, le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Les 26 et 27 avril, on souligne en grand les 10 ans du Salon international des vins spiritueux de Québec. Inscrivez-vous sur fm93.com. Vous pourriez gagner votre laissez-passer double pour ce rendez-vous festif ou le grand prix, une sélection de 48 bouteilles de vin.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner.